Chapitre 50 Madame de l'Estorade à Madame de Macumer. Comment, Louise, après tous les malheurs intimes que t'a donné une passion partagée au sein même du mariage, tu veux vivre avec un mari dans la solitude? Après en avoir tué un, en vivant dans le monde, tu veux te mettre à l'écart pour en dévorer un autre? Quel chagrin tu te prépares! Mais à la manière dont tu t'y es prise, je vois que tout est irrévocable. Pour qu'un homme t'ait fait revenir de ton aversion pour un second mariage, il doit posséder un esprit angélique, un cœur divin. Il faut donc te laisser à tes illusions. Mais as-tu donc oublié ce que je te disais de la jeunesse des hommes, qui tous ont passé par d'ignobles endroits et dont la candeur s'est perdue aux carrefours les plus horribles du chemin? Qui a changé, toi ou eux? Tu es bien heureuse de croire au bonheur. Je n'ai pas la force de te blâmer, quoique l'instinct de la tendresse me pousse à te détourner de ce mariage. Oui, 100 fois oui, la nature et la société s'entendent pour détruire l'existence des félicités entières, parce qu'elles sont à l'encontre de la nature et de la société, parce que le ciel est peut-être jaloux de ses droits. Enfin, mon amitié pressent quelques malheurs qu'aucune prévision ne pourrait m'expliquer. Je ne sais ni d'où il viendra, ni qui l'engendrera. Mais ma chère, un bonheur immense et sans bornes t'accablera sans doute. On porte encore moins facilement la joie excessive que la peine la plus lourde. Je ne dis rien contre lui, tu l'aimes, et je ne l'ai sans doute jamais vu. Mais tu m'écriras, j'espère, un jour où tu seras oisive, un portrait quelconque de ce bel et curieux animal. Tu me vois prenant gaiement mon parti, car j'ai la certitude qu'après la lune de miel, vous ferez tous deux, et d'un commun accord, comme tout le monde. Un jour, dans 2 ans, en nous promenant, quand nous passerons sur cette route, tu me diras « Voilà pourtant ce chalet d'où je ne devais pas sortir. » Et tu riras de ton bon rire, en montrant tes jolies dents. Je n'ai rien dit encore à Louis. Nous lui aurions trop apprêté à rire. Je lui apprendrai tout uniment, ton mariage et le désir que tu as de le tenir secret. Tu n'as malheureusement besoin ni de mère ni de sœur pour le coucher de la mariée. Nous sommes en octobre, tu commences par l'hiver en femme courageuse. S'il ne s'agissait pas de mariage, je dirais que tu attaques le taureau par les cornes. Enfin, tu auras en moi l'amie la plus discrète et la plus intelligente. Le centre mystérieux de l'Afrique a dévoré bien des voyageurs, et il me semble que tu te jettes, en fait de sentiments, dans un voyage semblable à ceux où tant d'explorateurs ont péri, soit par les nègres, soit dans les sables. Ton désert est à 2 lieues de Paris, je puis donc te dire gaiement « Bon voyage, tu nous reviendras !» Chapitre 51 De la comtesse de l'Estorade à Madame Marie Gaston. Que deviens-tu, ma chère? Après un silence de 3 années, il est permis à René d'être inquiète de Louise. Voilà donc l'amour. Il emporte, il annule une amitié comme la nôtre. Avoue que si j'adore mes enfants plus encore que tu n'aimes ton Gaston, il y a dans le sentiment maternel je ne sais quelle immensité qui permet de ne rien enlever aux autres affections et qui laisse une femme être encore amie sincère et dévouée. Tes lettres, ta douce et charmante figure me manquent. J'en suis réduite à des conjectures sur toi, ô Louise. Quant à nous, je vais t'expliquer les choses le plus succinctement possible. En relisant ton avant-dernière lettre, j'ai trouvé quelques mots aigres sur notre situation politique. Tu nous as raillés d'avoir gardé la place de président de chambre à la Cour des comptes, que nous tenions, ainsi que le titre de comte, de la faveur de Charles X. Mais est-ce avec 45 000 livres de rente, dont 30 appartiennent à un majorat, que je pourrais convenablement établir Athénaïs et ce pauvre petit mendiant de René? Ne devions-nous pas vivre de notre place et accumuler sagement les revenus de nos terres? En 20 ans, nous avons amassé environ 600 000 francs qui serviront à doter et ma fille et René que je destine à la marine. Mon pauvre petit aura 10 000 livres de rente et peut-être pourrons-nous lui laisser en argent une somme qui rende sa part égale à celle de sa sœur. Quand il sera capitaine de vaisseau, mon mendiant se mariera richement et tiendra dans le monde un rang égal à celui de son aîné. Ces sages calculs ont déterminé dans notre intérieur l'acceptation du nouvel ordre de choses. Naturellement, la nouvelle dynastie a nommé Louis pair de France et grand officier de la Légion d'honneur. Du moment où l'estorade prêtait serment, il ne devait rien faire à demi. Dès lors, il a rendu de grands services dans la chambre. Le voici maintenant arrivé à une situation où il restera tranquillement jusqu'à la fin de ses jours. Il a de la dextérité dans les affaires. Il est plus parleur agréable qu'orateur, mais cela suffit à ce que nous demandons à la politique. Sa finesse, ses connaissances, soit en gouvernement, soit en administration, sont appréciées, et tous les partis le considèrent comme un homme indispensable. Je puis te dire qu'on lui a dernièrement offert une ambassade, mais je la lui ai fait refuser. L'éducation d'Armand, qui maintenant a 13 ans, celle d'Athénaïs, qui va sur ses 11 ans, me retiennent à Paris, et j'y veux demeurer jusqu'à ce que mon petit René ait fini la sienne qui commence. Pour rester fidèle à la branche aînée et retourner dans ses terres, il ne fallait pas avoir à élever et à pourvoir 3 enfants. Une mère doit, mon ange, ne pas être décius, surtout dans un temps où les décius sont rares. Dans 15 ans d'ici, l'estorade pourra se retirer à la Crampade avec une belle retraite, en installant Armand à la Cour des comptes, où il le laissera référendaire. Quant à René, la marine en fera sans doute un diplomate. À 7 ans, ce petit garçon est déjà fin comme un vieux cardinal. Ah, Louise, je suis une bienheureuse mère. Mes enfants continuent à me donner des joies sans ombre. Senza brama, sicura ricchezza. Armand est au collège Henri IV. Je me suis décidée pour l'éducation publique sans pouvoir me décider néanmoins à m'en séparer. Et j'ai fait comme faisait le duc d'Orléans avant d'être, et peut-être pour devenir, Louis-Philippe. Tous les matins, Luca, ce vieux domestique que tu connais, mène Armand au collège à l'heure de la première étude et me le ramène à 4h30. Un vieux et savant répétiteur qui loge chez moi le fait travailler le soir et le réveille le matin à l'heure où les collégiens se lèvent. Luca lui porte une collation à midi pendant la récréation. Ainsi je le vois pendant le dîner, le soir avant son coucher, et j'assiste le matin à son départ. Armand est toujours le charmant enfant plein de cœur et de dévouement que tu aimes. Son répétiteur est content de lui. J'ai Manaïs avec moi, et le petit qui bourdonne sans cesse. Mais je suis aussi enfant qu'eux. Je n'ai pas pu me résoudre à perdre la douceur des caresses de mes chers enfants. Il y a pour moi dans la possibilité de courir dès que je le désire au lit d'Armand pour le voir pendant son sommeil, ou pour aller prendre, demander, recevoir un baiser de cet ange, une nécessité de mon existence. Néanmoins, le système de garder les enfants à la maison paternelle a des inconvénients, et je les ai bien reconnus. La société, comme la nature, est jalouse, et ne laisse jamais entreprendre sur ses lois. Elle ne souffre pas qu'on lui en dérange l'économie. Ainsi, dans les familles où l'on conserve les enfants, ils y sont trop tôt exposés au feu du monde. Ils en voient les passions, ils en étudient les dissimulations. Incapables de deviner les distinctions qui régissent la conduite des gens faits, ils souhaitent le monde à leurs sentiments, à leurs passions, au lieu de soumettre leurs désirs et leurs exigences au monde. Ils adoptent le faux éclat qui brille plus que les vertus solides, car c'est surtout les apparences que le monde met en dehors et habille de formes menteuses. Quand dès 15 ans, Un enfant a l'assurance d'un homme qui connaît le monde. Il est une monstruosité, devient vieillard à 25 ans, et se rend, par cette science précoce, inhabile aux véritables études sur lesquelles reposent les talents réels et sérieux. Le monde est un grand comédien, et comme le comédien, il reçoit et renvoie tout. Il ne conserve rien. Une mère doit donc, en gardant ses enfants, prendre la ferme résolution de les empêcher de pénétrer dans le monde, avoir le courage de s'opposer à leurs désirs et aux siens, de ne pas les montrer. Cornélie devait serrer ses bijoux. Ainsi ferai-je, car mes enfants sont toute ma vie. J'ai 30 ans. Voici le plus fort de la chaleur du jour passé, le plus difficile chemin fini. Dans quelques années je serai vieille femme. Aussi puisais-je une force immense au sentiment des devoirs accomplis. On dirait que ces trois petits êtres connaissent ma pensée et s'y conforment. Il existe entre eux qui ne m'ont jamais quittée et moi des rapports mystérieux. Enfin, ils m'accablent de jouissance, comme s'ils savaient tout ce qu'ils me doivent de dédommagement. Armand, qui pendant les 3 premières années de ses études a été lourd, méditatif, et qui m'inquiétait, est tout à coup parti. Sans doute il a compris le but de ces travaux préparatoires que les enfants n'aperçoivent pas toujours, et qui est de les accoutumer au travail, d'aiguiser leur intelligence, et de les façonner à l'obéissance, le principe des sociétés. Ma chère, il y a quelques jours, j'ai eu l'enivrante sensation de voir au concours général, en pleine Sorbonne, Armand couronné. Ton filleul a eu le premier prix de version. À la distribution des prix du collège Henri IV, il a obtenu les 2 premiers prix, celui de vers et celui de thème. Je suis devenue blême en entendant proclamer son nom, et j'avais envie de crier « Je suis la mère !» Naïs me serrait la main à me faire mal si on pouvait sentir une douleur dans un moment pareil. Ah, Louise, cette fête vaut bien des amours perdus. Les triomphes du frère ont stimulé mon petit René, qui veut aller au collège comme son aîné. Quelquefois, ses 3 enfants crient, se remuent dans la maison et font un tapage à fendre la tête. Je ne sais pas comment j'y résiste, car je suis toujours avec eux. Je ne me suis jamais fiée à personne, pas même à Mary, du soin de surveiller mes enfants. Mais il y a tant de joie à recueillir dans ce beau métier de mère. Voir un enfant quittant le jeu pour venir m'embrasser, comme poussé par un besoin, oh, quelle joie! Puis on les observe alors bien mieux. Un des devoirs d'une mère est de démêler, dès le jeune âge, les aptitudes, le caractère, la vocation de ses enfants. Ce qu'aucun pédagogue ne saurait faire. Tous les enfants élevés par leur mère ont de l'usage et du savoir-vivre, 2 acquisitions qui suppléent à l'esprit naturel, tandis que l'esprit naturel ne supplée jamais à ce que les hommes apprennent de leur mère. Je reconnais déjà ces nuances chez les hommes dans les salons, où je distingue aussitôt les traces de la femme dans les manières d'un jeune homme. Comment destituer ses enfants d'un pareil avantage? Tu le vois. Mes devoirs accomplis sont fertiles en trésor, en jouissance. Armand, j'en ai la certitude, sera le plus excellent magistrat, le plus noble administrateur, le député le plus consciencieux qui puisse jamais se trouver, tandis que mon René sera le plus hardi, le plus aventureux et en même temps le plus rusé marin du monde. Ce petit drôle a une volonté de fer. Il a tout ce qu'il veut. Il prend 1000 détours pour arriver à son but, et si les 1000 ne l'y mènent pas, il en trouve 1001e. Là où mon cher Armand se résigne avec calme en étudiant la raison des choses, mon René Tempête, s'ingénie, combine en parlotant sans cesse et finit par découvrir un joint. S'il y peut faire passer une lame de couteau, bientôt il y fait entrer sa petite voiture. Quant à Naïs, c'est tellement moi que je ne distingue pas sa chair de la mienne. Ah, la chérie, la petite fille aimée que je me plais à rendre coquette, de qui je tresse les cheveux et les boucles en y mettant mes pensées d'amour, je la veux heureuse. Elle ne sera donnée qu'à celui qui l'aimera et qu'elle aimera. Mais mon Dieu, quand je la laisse se pomponner, ou quand je lui passe des rubans groseilles entre les cheveux, quand je chausse ses petits pieds si mignons, il me saute au cœur et à la tête une idée qui me fait presque défaillir. Est-on maîtresse du sort de sa fille? Peut-être aimera-t-elle un homme indigne d'elle. Peut-être ne sera-t-elle pas aimée de celui qu'elle aimera. Souvent, quand je la contemple, il me vient des pleurs dans les yeux. Quitter une charmante créature, une fleur, une rose qui a vécu dans notre sein comme un bouton sur le rosier, et la donner à un homme qui nous la ravit tout. C'est toi qui, dans 2 ans, ne m'as pas écrit ces 3 mots « Je suis heureuse ». C'est toi qui m'as rappelé le drame du mariage, horrible pour une mère aussi mère que je le suis. Adieu, car je ne sais pas comment je t'écris. Tu ne mérites pas mon amitié. Oh, réponds, ma Louise.
Lettre 52. Madame Gaston à Madame de l'Estorade. Au chalet. Un silence de 3 années a piqué ta curiosité. Tu me demandes pourquoi je ne t'ai pas écrit. Mais, ma chère Renée, il n'y a ni phrase, ni mots, ni langage pour exprimer mon bonheur. Nos âmes ont la force de le soutenir. Voilà tout, en 2 mots. Nous n'avons point le moindre effort à faire pour être heureux. Nous nous entendons en toutes choses. En 3 ans, il n'y a pas eu la moindre dissonance dans ce concert, le moindre désaccord d'expression dans nos sentiments, la moindre différence dans les moindres vouloirs. Enfin, ma chère, il n'est pas une de ces 1000 journées qui n'ait porté son fruit particulier. Pas un moment que la fantaisie n'ait rendu délicieux. Non seulement notre vie, nous en avons la certitude, ne sera jamais monotone, mais encore elle ne sera peut-être jamais assez étendue pour contenir les poésies de notre amour, fécond comme la nature, varié comme elle. Non, pas un mécompte. Nous nous plaisons encore bien mieux qu'au premier jour, et nous découvrons de moment en moment de nouvelles raisons de nous aimer. Nous nous promettons tous les soirs, en nous promenant après le dîner, d'aller à Paris par curiosité, comme on dit. J'irai voir la Suisse. Comment ? S'écrie Gaston. Mais on arrange tel boulevard, la Madeleine est finie. Il faut cependant aller examiner cela. Bah, le lendemain, nous restons au lit, nous déjeunons dans notre chambre, midi vient, il fait chaud, on se permet une petite sieste. Puis il me demande de me laisser regarder, et il me regarde absolument comme si j'étais un tableau. Il s'abîme en cette contemplation, qui, tu le devines, est réciproque. Il nous vient alors l'un à l'autre des larmes aux yeux. Nous pensons à notre bonheur et nous tremblons. Je suis toujours sa maîtresse, c'est-à-dire que je parais aimée moins que je ne suis aimée. Cette tromperie est délicieuse. Il y a tant de charme pour nous autres femmes à voir le sentiment l'emporter sur le désir, à voir le maître, encore timide, s'arrêter là où nous souhaitons qu'il reste. Tu m'as demandé de te dire comment il est. Mais, ma Renée, il est impossible de faire le portrait d'un homme qu'on aime. On ne saurait être dans le vrai. Puis, entre nous, avouons-nous sans pruderie un singulier et triste effet de nos mœurs. Il n'y a rien de si différent que l'homme du monde et l'homme de l'amour. La différence est si grande que l'un peut ne ressembler en rien à l'autre. Celui qui prend les poses les plus gracieuses du plus gracieux danseur pour nous dire au coin d'une cheminée, le soir, une parole d'amour, peut n'avoir aucune des grâces secrètes que veut une femme. Au rebours, un homme qui paraît laid, sans manière, mal enveloppé de drap noir, cache un amant qui possède l'esprit de l'amour et qui ne sera ridicule dans aucune de ses positions où nous-mêmes nous pouvons périr avec toutes nos grâces extérieures. Rencontrer chez un homme un accord mystérieux entre ce qu'il paraît être et ce qu'il est, en trouver un qui, dans la vie secrète du mariage, ait cette grâce innée qui ne se donne pas, qui ne s'acquiert point, que la statuaire antique a déployée dans les mariages voluptueux et chastes de ses statues, cette innocence du laisser-aller que les anciens ont mise dans leurs poèmes, et qui, dans le déshabillé, paraît avoir encore des vêtements pour les âmes, tout cet idéal qui ressort de nous-mêmes et qui tient au monde des harmonies, qui sans doute est le génie des choses. Enfin, cet immense problème, cherché par l'imagination de toutes les femmes, eh bien, Gaston en est la vivante solution. Ah, cher, je ne savais pas ce que c'était que l'amour, la jeunesse, l'esprit et la beauté réunis. Mon Gaston n'est jamais affecté. Sa grâce est instinctive, elle se développe sans effort. Quand nous marchons seuls dans les bois, sa main passée autour de ma taille, la mienne sur son épaule, son corps tenant au mien, nos têtes se touchant, nous allons d'un pas égal, par un mouvement uniforme et si doux, si bien le même, que pour des gens qui nous verraient passer, nous paraîtrions un même être glissant sur le sable des allées, à la façon des immortels d'Homère. Cette harmonie est dans le désir, dans la pensée, dans la parole. Quelquefois, sous la feuillée encore humide d'une pluie passagère, alors qu'au soir les herbes sont d'un vert lustré par l'eau, nous avons fait des promenades entières sans nous dire un seul mot, écoutant le bruit des gouttes qui tombaient, jouissant des couleurs rouges que le couchant étalait aux cimes ou broyait sur les écorces grises. Certes, alors, nos pensées étaient une prière secrète, confuse, qui montait au ciel comme une excuse de notre bonheur. Quelquefois, nous nous écrions ensemble au même moment en voyant un bout d'allée qui tourne brusquement et qui de loin nous offre de délicieuses images. Si tu savais ce qu'il y a de miel et de profondeur dans un baiser presque timide qui se donne au milieu de cette sainte nature. C'est à croire que Dieu ne nous a fait que pour le prier ainsi. Et nous rentrons toujours plus amoureux l'un de l'autre. Cet amour entre deux époux semblerait une insulte à la société dans Paris. Il faut s'y livrer comme des amants au fond des bois. Gaston, ma chère, a cette taille moyenne qui a été celle de tous les hommes d'énergie. Il n'est ni gras ni maigre et très bien fait. Ses proportions ont de la rondeur, il a de l'adresse dans ses mouvements, il saute un fossé avec la légèreté d'une bête fauve. En quelque position qu'il soit, il y a chez lui comme un sens qui lui fait trouver son équilibre, et ceci est rare chez les hommes qui ont l'habitude de la méditation. Quoique brun, il est d'une grande blancheur. Ses cheveux sont d'un noir de jais et produisent de vigoureux contrastes avec les tons mats de son cou et de son front. Il a la tête mélancolique de Louis XIII. Il a laissé pousser ses moustaches et sa royale, mais je lui ai fait couper ses favoris et sa barbe. C'est devenu commun. Sa sainte misère me l'a conservé pur de toutes ces souillures qui gâtent tant de jeunes gens. Il a des dents magnifiques. Il est d'une santé de fer. Son regard bleu si vif, mais pour moi d'une douceur magnétique, s'allume et brille comme un éclair quand son âme est agitée. Semblable à tous les gens forts et d'une puissante intelligence, il est d'une égalité de caractère qui te surprendrait comme elle m'a surprise. J'ai entendu bien des femmes me confier les chagrins de leur intérieur, mais ces variations de vouloir, ces inquiétudes des hommes mécontents d'eux-mêmes, qui ne veulent pas ou ne savent pas vieillir, qui ont je ne sais quel reproche éternel de leur folle jeunesse, et dont les veines charrient des poisons, dont le regard a toujours un fond de tristesse, qui se font taquins pour cacher leur défiance, qui vont vendre une heure de tranquillité pour des matinées mauvaises, qui se vengent sur nous de ne pouvoir être aimables, et qui prennent nos beautés en une haine secrète, toutes ces douleurs, la jeunesse ne les connaît point. Elles sont l'attribut des mariages disproportionnés. Oh, ma chère, ne marie Athénaïs qu'avec un jeune homme. Si tu savais combien je me repais de ce sourire constant qui varie sans cesse, un esprit fin et délicat. De ce sourire qui parle, qui, dans le coin des lèvres, renferme des pensées d'amour, de muets remerciements, et qui relie toujours les joies passées aux présentes. Il n'y a jamais rien d'oublié entre nous. Nous avons fait des moindres choses de la nature, des complices de nos félicités. Tout est vivant, tout nous parle de nous dans ces bois ravissants. Un vieux chêne moussu, près de la maison, du garde sur la route, nous dit que nous nous sommes assis fatigués sous son ombre, et que Gaston m'a expliqué là les mousses qui étaient à nos pieds, m'a fait leur histoire, et que de ces mousses nous avons monté de science en science jusqu'aux fins du monde. Nos deux esprits ont quelque chose de si fraternel que je crois que c'est deux éditions du même ouvrage. Tu le vois, je suis devenue littéraire. Nous avons tous deux l'habitude, ou le don, de voir chaque chose dans son étendue, d'y tout apercevoir. Et la preuve que nous nous donnons constamment à nous-mêmes de cette pureté du sens intérieur est un plaisir toujours nouveau. Nous en sommes arrivés à regarder cette entente de l'esprit comme un témoignage d'amour. Et si jamais elle nous manquait, ce serait pour nous ce qu'est une infidélité pour les autres ménages. Ma vie, pleine de plaisir, te paraîtrait d'ailleurs excessivement laborieuse. D'abord, ma chère, apprends que Louise Armande Marie de Chaulieu fait elle-même sa chambre. Je ne souffrirai jamais que des soins mercenaires, qu'une femme ou une fille étrangère s'initiasse. Femme littéraire, au secret de ma chambre. Ma religion embrasse les moindres choses nécessaires à son culte. Ce n'est pas jalousie, mais bien respect de soi-même. Aussi, ma chambre est-elle faite avec le soin qu'une jeune amoureuse peut prendre de ses atours. Je suis méticuleuse comme une vieille fille. Mon cabinet de toilette, au lieu d'être un tohu-bohu, est un délicieux boudoir. Mes recherches ont tout prévu. Le maître, le souverain, peut y entrer en tout temps. Son regard ne sera point affligé, étonné ni désenchanté. Fleurs, parfums, élégance, tout y charme la vue. Pendant qu'il dort encore, le matin, au jour, sans qu'il s'en soit encore douté, je me lève, je passe dans ce cabinet, où, rendue savante par les expériences de ma mère, j'enlève les traces du sommeil avec des lotions d'eau froide. Pendant que nous dormons, la peau, moins excitée, fait mal ses fonctions. Elle devient chaude, elle a comme un brouillard visible à l'œil des cirons, une sorte d'atmosphère. Sous l'éponge qui ruisselle, une femme sort jeune fille. Là, peut-être, est l'explication du mythe de Vénus sortant des eaux. L'eau me donne alors les grâces piquantes de l'aurore. Je me peigne, me parfume les cheveux. Et, après cette toilette minutieuse, je me glisse comme une couleuvre, afin qu'à son réveil, le maître me trouve pimpante comme une matinée de printemps. Il est charmé par cette fraîcheur de fleurs nouvellement éclose, sans pouvoir s'expliquer le pourquoi. Plus tard, la toilette de la journée regarde alors ma femme de chambre et a lieu dans un salon d'habillement. Il y a, comme tu le penses, la toilette du coucher. Ainsi, j'en fais trois pour monsieur mon époux, quelquefois quatre. Mais ceci, ma chère, tient à d'autres mythes de l'Antiquité. Nous avons aussi nos travaux. Nous nous intéressons beaucoup à nos fleurs, aux belles créatures de notre serre et à nos arbres. Nous sommes sérieusement botanistes. Nous aimons passionnément les fleurs. Le chalet en est encombré. Nos gazons sont toujours verts, nos massifs sont soignés, autant que ceux des jardins du plus riche banquier. Aussi, rien n'est-il beau comme notre enclos. Nous sommes excessivement gourmands de fruits. Nous surveillons nos montreuils, nos couches, nos espaliers, nos quenouilles. Mais dans le cas où ses occupations champêtres ne satisferaient pas l'esprit de mon adoré, je lui ai donné le conseil d'achever, dans le silence et la solitude, quelques-unes des pièces de théâtre qu'il a commencées pendant ses jours de misère, et qui sont vraiment belles. Ce genre de travail est le seul dans les lettres qui se puisse quitter et reprendre, car il demande de longues réflexions et n'exige pas la ciselure que veut le style. On ne peut pas toujours faire du dialogue, il y faut du trait, des résumés, des saillies que l'esprit porte comme les plantes donnent leurs fleurs, et qu'on trouve plus en les attendant qu'en les cherchant. Cette chasse aux idées me va. Je suis le collaborateur de mon Gaston, et ne le quitte ainsi jamais, pas même quand il voyage dans les vastes champs de l'imagination. Devines-tu maintenant comment je me tire des soirées d'hiver? Notre service est si doux que nous n'avons pas eu depuis notre mariage un mot de reproche, pas une observation à faire à nos gens. Quand ils ont été questionnés sur nous, ils ont eu l'esprit de fourber. Ils nous ont fait passer pour la dame de compagnie et le secrétaire de leur maître, censé en voyage. Certains de ne jamais éprouver le moindre refus, ils ne sortent point sans en demander la permission. D'ailleurs, ils sont heureux et voient bien que leur condition ne peut être changée que par leur faute. Nous laissons les jardiniers vendre le surplus de nos fruits et de nos légumes. La vachère qui gouverne la laiterie en fait autant pour le lait, la crème et le beurre frais. Seulement, les plus beaux produits nous sont réservés. Ces gens sont très contents de leurs profits, et nous sommes enchantés de cette abondance qu'aucune fortune ne peut ou ne sait se procurer dans ce terrible Paris, où les belles pêches coûtent chacune le revenu de 100 francs. Tout cela, ma chère, a un sens. Je veux être le monde pour Gaston. Le monde est amusant, mon mari ne doit donc pas s'ennuyer dans cette solitude. Je croyais être jalouse quand j'étais aimée et que je me laissais aimer. Mais j'éprouve aujourd'hui la jalousie des femmes qui aiment, enfin la vraie jalousie. Aussi celui de ces regards qui me semblent indifférents me fait-il trembler. De temps en temps je me dis « S'il allait ne plus m'aimer !» Et je frémis. Oh, je suis bien devant lui comme l'âme chrétienne et devant Dieu. Hélas, ma Renée, je n'ai toujours point d'enfant. Un moment viendra sans doute où il faudra les sentiments du père et de la mère pour animer cette retraite, où nous aurons besoin l'un et l'autre de voir des petites robes, des pèlerines, des têtes brunes ou blondes, sautant, courant à travers ces massifs et nos sentiers fleuris. Oh, quelle monstruosité que des fleurs sans fruits! Le souvenir de ta belle famille est poignant pour moi. Ma vie, à moi, s'est restreinte, tandis que la tienne a grandi, a rayonné. L'amour est profondément égoïste, tandis que la maternité tend à multiplier nos sentiments. J'ai bien senti cette différence en lisant ta bonne, ta tendre lettre. Ton bonheur m'a fait envie en te voyant vivre dans 3 cœurs. Oui, tu es heureuse. Tu as sagement accompli les lois de la vie sociale, tandis que je suis en dehors de tout. Il n'y a que des enfants aimants et aimés qui puisse consoler une femme de la perte de sa beauté. J'ai 30 ans bientôt, et à cet âge, une femme commence de terribles lamentations intérieures. Si je suis belle encore, j'aperçois les limites de la vie féminine. Après, que deviendrai-je? Quand j'aurai 40 ans, il ne les aura pas, il sera jeune encore, et je serai vieille. Lorsque cette pensée pénètre dans mon cœur, je reste à ses pieds 1 heure, en lui faisant jurer, quand il sentira moins d'amour pour moi, de me le dire à l'instant. Mais c'est un enfant. Il me le jure comme si son amour ne devait jamais diminuer. Et il est si beau que... Tu comprends? Je le crois. Adieu, cher ange. Serons-nous encore pendant des années sans nous écrire? Le bonheur est monotone dans ses expressions. Aussi peut-être est-ce à cause de cette difficulté que Dante paraît plus grand aux âmes aimantes dans son paradis que dans son enfer. Je ne suis pas Dante, je ne suis que ton ami, et tiens à ne pas t'ennuyer. Toi, tu peux m'écrire, car tu as dans tes enfants un bonheur varié qui va croissant, tandis que le mien... Ne parlons plus de ceci. Je t'envoie 1000 tendresses.
Chapitre 53 De Madame de l'Estorade à Madame Gaston. Ma chère Louise, j'ai lu, relu ta lettre, et plus je m'en suis pénétrée, plus j'ai vu en toi moins une femme qu'un enfant. Tu n'as pas changé, tu oublies ce que je t'ai dit 1000 fois. L'amour est un vol fait par l'état social à l'état naturel. Il est si passager dans la nature que les ressources de la société ne peuvent changer sa condition primitive. Aussi, toutes les nobles âmes essaient-elles de faire un homme de cet enfant. Mais alors, l'amour devient, selon toi-même, une monstruosité. La société, ma chère, a voulu être féconde. En substituant les sentiments durables à la fugitive folie de la nature, elle a créé la plus grande chose humaine, la famille, éternelle base des sociétés. Elle a sacrifié l'homme, aussi bien que la femme, à son œuvre. Car ne nous abusons pas, le père de famille donne son activité, ses forces, toutes ses fortunes à sa femme. N'est-ce pas la femme qui jouit de tous les sacrifices? Le luxe, la richesse, tout n'est-il pas à peu près pour elle? Pour elle la gloire et l'élégance, la douceur et la fleur de la maison. Ô mon ange! Tu prends encore une fois très mal la vie. Être adorée est un thème de jeune fille bon pour quelques printemps, mais qui ne saurait être celui d'une femme épouse et mère. Peut-être suffit-il à la vanité d'une femme de savoir qu'elle peut se faire adorer. Si tu veux être épouse et mère, reviens à Paris. Laisse-moi te répéter que tu te perdras dans le bonheur comme d'autres se perdent dans le malheur. Les choses qui ne nous fatiguent point, le silence, le pain, l'air, sont sans reproche, parce qu'elles sont sans goût. Tandis que les choses pleines de saveur, en irritant nos idées, finissent par les lasser. Écoute-moi, mon enfant. Maintenant, quand même je pourrais être aimée par un homme pour qui je sentirais naître en moi l'amour que tu portes à Gaston, je saurais rester fidèle à mes chers devoirs et à ma douce famille. La maternité, mon ange, est pour le cœur de la femme une des choses simples, naturelles, fertiles, inépuisables, comme celles qui sont les éléments de la vie. Je me souviens d'avoir un jour, il y a bientôt 14 ans, embrassé le dévouement comme un naufragé s'attache au mât de son vaisseau par désespoir. Mais aujourd'hui, quand j'évoque par le souvenir toute ma vie devant moi, je choisirai encore ce sentiment comme le principe de ma vie, car il est le plus sûr et le plus fécond de tous. L'exemple de ta vie, assise sur un égoïsme féroce, quoique caché par les poésies du cœur, a fortifié ma résolution. Je ne te dirai plus jamais ces choses, mais je devais te les dire encore une dernière fois, en apprenant que ton bonheur résiste à la plus terrible des épreuves. Ta vie à la campagne, objet de mes méditations, m'a suggéré cette autre observation que je dois te soumettre. Notre vie est composée, comme pour le corps, comme pour le cœur, de certains mouvements réguliers. Tout excès apporté dans ce mécanisme est une cause de plaisir ou de douleur. Or, le plaisir ou la douleur est une fièvre d'âme essentiellement passagère, parce qu'elle n'est pas longtemps supportable. Faire de l'excès sa vie même, n'est-ce pas vivre malade? Tu vis malade, en maintenant à l'état de passion un sentiment qui doit devenir dans le mariage une force égale et pure. Oui, mon ange, aujourd'hui je le reconnais, la gloire du ménage est précisément dans le calme, dans cette profonde connaissance mutuelle, dans cet échange de biens et de mots que les plaisanteries vulgaires lui reprochent. Oh, combien il est grand ce mot de la duchesse de Sully, la femme du grand Sully, enfin, à qui l'on disait que son mari, quelque grave qu'il parût, ne se faisait pas scrupule d'avoir une maîtresse. « C'est tout simple, » a-t-elle répondu. « Je suis l'honneur de la maison, et je serai fort chagrine d'y jouer le rôle d'une courtisane. » Plus voluptueuse que tendre, tu veux être et la femme et la maîtresse. Avec l'âme d'Héloïse et l'essence de Sainte Thérèse, tu te livres à des égarements sanctionnés par les lois. En un mot, tu dépraves l'institution du mariage. Oui, toi qui me jugeais si sévèrement quand je paraissais immorale en acceptant dès la veille de mon mariage les moyens du bonheur, en pliant tout à ton usage, tu mérites aujourd'hui les reproches que tu m'adressais. Eh quoi ! Tu veux asservir et la nature et la société à ton caprice ? Tu restes toi-même, tu ne te transformes point en ce quoi doit être une femme. Tu gardes tes volontés, les exigences de la jeune fille, et tu portes dans ta passion les calculs les plus exacts, les plus mercantiles. Ne vends-tu pas très très cher tes parures ? Je te trouve bien défiante avec toutes tes précautions. Oh, chère Louise, si tu pouvais connaître les douceurs du travail que les mères font sur elles-mêmes pour être bonnes et tendres à toute leur famille. L'indépendance et la fierté de mon caractère se sont fondues dans une mélancolie douce, et que les plaisirs maternels ont dissipé en la récompensant. Si la matinée fut difficile, le soir sera pur et serein. J'ai peur que ce soit tout le contraire pour ta vie. En finissant ta lettre, j'ai supplié Dieu de te faire passer une journée au milieu de nous pour te convertir à la famille, à ces joies indicibles, constantes, éternelles, parce qu'elles sont vraies, simples et dans la nature. Mais hélas, que peut ma raison contre une faute qui te rend heureuse? J'ai les larmes aux yeux en t'écrivant ces derniers mots. J'ai cru franchement que plusieurs mois accordés à cet amour conjugal te rendraient la raison par la satiété. Mais je te vois insatiable, et après avoir tué un amant, tu en arriveras à tuer l'amour. Adieu, cher égaré. Je désespère, puisque la lettre où j'espérais te rendre à la vie sociale par la peinture de mon bonheur n'a servi qu'à la glorification de ton égoïsme. Oui, il n'y a que toi dans ton amour, et tu aimes Gaston bien plus pour toi que pour lui-même.
Lettre 54 de Madame Gaston à la Comtesse de l'Estorade. 20 mai. René, le malheur est venu. Non, il a fondu sur ta pauvre Louise avec la rapidité de la foudre. Et tu me comprends. Le malheur pour moi, c'est le doute. La conviction, ce serait la mort. Avant-hier, après ma première toilette, en cherchant partout Gaston pour faire une petite promenade avant le déjeuner, je ne l'ai point trouvé. Je suis entrée à l'écurie, j'y ai vu sa jument trempée de sueur et à laquelle le groom enlevait, à l'aide d'un couteau, des flocons d'écume avant de l'essuyer. Qui donc a pu mettre Fedelta dans un pareil état ? Ai-je dit. Monsieur, a répondu l'enfant. J'ai reconnu sous les jarrets de la jument la boue de Paris, qui ne ressemble point à la boue de la campagne. Il est allé à Paris, ai-je pensé. Cette pensée en a fait jaillir mille autres dans mon cœur et y a attiré tout mon sang. Aller à Paris sans me le dire, prendre l'heure où je le laisse seul, y courir et en revenir avec tant de rapidité que Fedelta soit presque fourbu. Le soupçon m'a serré de sa terrible ceinture à m'en faire perdre la respiration. Je suis allée à quelques pas de là, sur un banc, pour tâcher de reprendre mon sang-froid. Gaston m'a surprise ainsi, blême, effrayante à ce qu'il paraît, car il m'a dit « Qu'as-tu ?» si précipitamment et d'un son de voix si plein d'inquiétude que je me suis levée et lui ai pris le bras. Mais j'avais les articulations sans force, et j'ai bien été contrainte de me rasseoir. Il m'a prise alors dans ses bras et m'a emportée à deux pas de là dans le parloir, où tous nos gens effrayés nous ont suivis. Mais Gaston les a renvoyés par un geste. Quand nous avons été seuls, j'ai pu, sans vouloir rien dire, gagner notre chambre où je me suis enfermée pour pouvoir pleurer à mon aise. Gaston s'est tenu pendant 2 heures environ, écoutant mes sanglots, interrogeant avec une patience d'ange sa créature, qui ne lui répondait point. « Je vous reverrai quand mes yeux ne seront plus rouges et quand ma voix ne tremblera plus, » lui ai-je dit enfin. Le « vous » l'a fait bondir hors de la maison. J'ai pris de l'eau glacée pour baigner mes yeux, j'ai rafraîchi ma figure, la porte de notre chambre s'est ouverte, je l'ai trouvé là, revenu sans que j'eusse entendu le bruit de ses pas. « Qu'as-tu » m'a-t-il demandé. « Rien, » lui dis-je. « J'ai reconnu la boue de Paris au jarret fatigué de Feldalta. Je n'ai pas compris que tu y allas sans m'en prévenir, mais tu es libre. Ta punition pour tes doutes si criminels sera de n'apprendre mes motifs que demain. » a-t-il répondu. Regarde-moi, lui ai-je dit. J'ai plongé mes yeux dans les siens. L'infini a pénétré l'infini. Non, je n'ai pas aperçu ce nuage que l'infidélité répand dans l'âme et qui doit altérer la pureté des prunelles. J'ai fait la rassurer, encore que je restasse inquiète. Les hommes savent aussi bien que nous tromper, mentir. Nous ne nous sommes plus quittés. Oh, cher, combien par moments, en le regardant, je me suis trouvée indissolublement attachée à lui. Quels tremblements intérieurs m'agitèrent quand il reparut après m'avoir laissée seule pendant un moment. Ma vie est en lui et non en moi. J'ai donné de cruels démentis à ta cruelle lettre. Ai-je jamais senti cette dépendance avec ce divin espagnol pour qui j'étais ce que cet atroce bambin est pour moi? Combien je hais cette jument! Quelle niaiserie à moi d'avoir eu des chevaux! Mais il faudrait aussi couper les pieds à Gaston ou le détenir dans le cottage. Ces pensées stupides m'ont occupé. Juge par là de ma déraison. Si l'amour ne lui a pas construit une cage, aucun pouvoir ne saurait retenir un homme qui s'ennuie. T'ennuyais-je? Lui ai-je dit à brûle-pourpoint. « Comme tu te tourmentes sans raison » m'a-t-il répondu, les yeux pleins d'une douce pitié. « Je ne t'ai jamais tant aimé. »« Si c'est vrai, mon ange adoré, » lui ai-je répliqué, « laisse-moi faire vendre Feldalta. »« Vends » a-t-il dit. Ce mot m'a comme écrasé. Gaston a eu l'air de me dire « Toi seul es riche ici, je ne suis rien, ma volonté n'existe pas. » S'il ne l'a pas pensé, j'ai cru qu'il le pensait. Et de nouveau je l'ai quitté pour m'aller coucher. La nuit était venue. Oh, René, dans la solitude, une pensée ravageuse vous conduit au suicide. Ces délicieux jardins, cette nuit étoilée, cette fraîcheur qui m'envoyait par bouffées l'encens de toutes nos fleurs, notre vallée, nos collines, tout me semblait sombre, noir et désert. J'étais comme au fond d'un précipice, au milieu des serpents, des plantes vénéneuses. Je ne voyais plus de Dieu dans le ciel. Après une nuit pareille, une femme a vieilli. « Prends Feldalta, cours à Paris !» lui ai-je dit le lendemain matin. « Ne l'abandonne pas, je l'aime, elle te porte !» Il ne s'est pas trompé néanmoins à mon accent, où perçait la rage intérieure que j'essayais de cacher. « Confiance » a-t-il répondu en me tendant la main par un mouvement si noble et en me lançant un si noble regard que je me suis sentie aplatie. Nous sommes bien petites, me suis-je écrié. Non, tu m'aimes et voilà tout, a-t-il dit en me pressant sur lui. Va à Paris sans moi, lui ai-je dit en lui faisant comprendre que je me désarmais de mes soupçons. Il est parti. Je croyais qu'il allait rester. Je renonce à te peindre mes souffrances. Il y avait en moi-même une autre moi que je ne savais pas pouvoir exister. D'abord, ces sortes de scènes, ma chère, ont une solennité tragique pour une femme qui aime, que rien ne saurait exprimer. Toute la vie apparaît dans le moment où elle se passe, et l'œil n'y aperçoit aucun horizon. Le rien est tout. Le regard est un livre, la parole charrie des glaçons, et dans un mouvement de lèvres, on lit un arrêt de mort. Je m'attendais à du retour, car m'étais-je montrée assez noble et grande? J'ai monté jusqu'en haut du chalet et l'ai suivi des yeux sur la route. Ah, ma chère Renée, je l'ai vu disparaître avec une affreuse rapidité. Comme il y court, pensais-je involontairement. Puis, une fois seule, je suis retombée dans l'enfer des hypothèses, dans le tumulte des soupçons. Par moments, la certitude d'être trahie me semblait être un baume comparé aux horreurs du doute. Le doute est notre duel avec nous-mêmes, et nous nous y faisons de terribles blessures. J'allais, je tournais dans les allées, je revenais au chalet, j'en sortais comme une folle. Parti sur les 7 heures, Gaston ne revint qu'à 11 heures. Et comme par le parc de Saint-Cloud et le bois de Boulogne, une demi-heure suffit pour aller à Paris, il est clair qu'il avait passé 3 heures dans Paris. Il entra triomphant en m'apportant une cravache en caoutchouc dont la poignée est en or. Depuis 15 jours j'étais sans cravache. La mienne, usée et vieille, s'était brisée. « Voilà pourquoi tu m'as torturée ?» lui ai-je dit en admirant le travail de ce bijou qui contient une cassolette au bout. Puis je compris que ce présent cachait une nouvelle tromperie. Mais je lui sautai promptement au cou, non sans lui faire de doux reproches pour m'avoir imposé de si grands tourments pour une bagatelle. Il se crut bien fin. Je vis alors dans son maintien, dans son regard, cette espèce de joie intérieure qu'on éprouve en faisant réussir une tromperie. Il s'échappe comme une lueur de notre âme, comme un rayon de notre esprit qui se reflète dans les traits, qui se dégage avec les mouvements du corps. En admirant cette jolie chose, je lui demandai, dans un moment où nous nous regardions bien, « Qui t'a fait cette œuvre d'art ?»« Un artiste de mes amis. »« Ah, Verdier l'a monté !» ajoutai-je en lisant le nom du marchand imprimé sur la cravache. Gaston est resté très enfant. Il a rougi. Je l'ai comblé de caresses pour le récompenser d'avoir eu honte de me tromper. Je fis l'innocente et il a pu croire tout fini. 25 mai. Le lendemain, vers 6 heures, je mis mon habit de cheval et je tombai à 7 heures chez Verdier, où je vis plusieurs cravaches de ce modèle. Un commis reconnut la mienne que je lui montrai. « Nous l'avons vendue hier à un jeune homme, » me dit-il. Et sur la description que je lui fis de mon fourbe de Gaston, il n'y eut plus de doute. Je te fais grâce des palpitations de cœur qui me brisaient la poitrine en allant à Paris. Et pendant cette petite scène où se décidait ma vie. Revenu à 7h30, Gaston me trouva pimpante en toilette du matin, me promenant avec une trompeuse insouciance et sûr que rien ne trahirait mon absence, dans le secret de laquelle je n'avais mis que mon vieux Philippe. « Gaston, lui dis-je en tournant autour de notre étang, je connais assez la différence qui existe entre une œuvre d'art unique, faite avec amour pour une seule personne, et celle qui sort d'un moule. » Gaston devint pâle et me regarda lui présenter la terrible pièce à conviction. « Mon ami, lui dis-je. « Ce n'est pas une cravache, c'est un paravent derrière lequel vous abritez un secret. » Là-dessus, ma chère, je me suis donné le plaisir de le voir s'en tortillant dans les charmilles du mensonge et les labyrinthes de la tromperie, sans en pouvoir sortir, et déployant un art prodigieux pour essayer de trouver un mur à escalader, mais contraint de rester sur le terrain, devant un adversaire qui consentit enfin à se laisser abuser. Cette complaisance est venue trop tard, comme toujours dans ces sortes de scènes. D'ailleurs, j'avais commis la faute contre laquelle ma mère avait essayé de me prémunir. Ma jalousie s'était montrée à découvert et établissait la guerre et ses stratagèmes entre Gaston et moi. Ma chère, la jalousie est essentiellement bête et brutale. Je me suis alors promis de souffrir en silence, de tout espionner, d'acquérir une certitude et d'en finir alors avec Gaston, ou de consentir à mon malheur. Il n'y a pas d'autre conduite à tenir pour les femmes bien élevées. Que me cache-t-il? Car il me cache un secret. Ce secret concerne une femme. Est-ce une aventure de jeunesse de laquelle ils rougissent? Quoi? Ce « quoi », ma chère, est gravé en quatre lettres de feu sur toute chose. Je lis ce fatal mot en regardant le miroir de mon étang, à travers mes massifs, aux nuages du ciel, au plafond, à table, dans les fleurs de mes tapis. Au milieu de mon sommeil, une voix m'écrit « quoi ?» À compter de cette matinée, il y eut dans notre vie un cruel intérêt, et j'ai connu la plus âcre des pensées qui puisse corroder notre cœur. Être à un homme que l'on croit infidèle. Oh, ma chère, cette vie tient à la fois à l'enfer et au paradis. Je n'avais pas encore posé le pied dans cette fournaise, moi, jusqu'alors si saintement adorée. Tu souhaitais un jour de pénétrer dans les sombres et ardents palais de la souffrance, me disais-je. Eh bien, les démons ont entendu ton fatal souhait. Marche, malheureuse. 30 mai. Depuis ce jour, Gaston, au lieu de travailler mollement et avec le laisser-aller de l'artiste riche qui caresse son œuvre, se donne des tâches comme l'écrivain qui vit de sa plume. Il emploie 4 heures tous les jours à finir 2 pièces de théâtre. Il lui faut de l'argent. Cette pensée me fut soufflée par une voix intérieure. Il ne dépense presque rien, et comme nous vivons dans une absolue confiance, il n'est pas un coin de son cabinet où mes yeux et mes doigts ne puissent fouiller. Sa dépense par an ne se monte pas à 2 000 francs. Je lui sais 30 000 francs moins amassés que mis dans un tiroir. Au milieu de la nuit, je suis allée pendant son sommeil voir si la somme y était toujours. Quel frisson glacial m'a saisi en trouvant le tiroir vide. Dans la même semaine, j'ai découvert qu'il va chercher des lettres à Sèvres. Il doit les déchirer aussitôt après les avoir lues, car malgré mes inventions de Figaro, je n'en ai point trouvé de vestiges. Hélas, mon ange, malgré mes promesses et tous les beaux serments que je m'étais faits à moi-même à propos de la cravache, un mouvement d'âme, qu'il faut appeler folie, m'a poussé, et je l'ai suivi dans une de ces courses rapides au bureau de la poste. Gaston fut terrifié d'être surpris à cheval, payant le port d'une lettre qu'il tenait à la main. Après m'avoir regardé fixement, il a mis Fedelta au galop par un mouvement si rapide que je me sentis brisée en arrivant à la porte du bois, dans un moment où je croyais ne pouvoir sentir aucune fatigue corporelle. Tant mon âme souffrait. Là, Gaston ne me dit rien. Il sonne et attend, sans me parler. J'étais plus morte que vive. Ou j'avais raison, ou j'avais tort. Mais dans les deux cas, mon espionnage était indigne d'Armande Louise-Marie de Chaulieu. Je roulais dans la fange sociale, au-dessous de la grisette, de la fille mal élevée, côte à côte avec les courtisanes, les actrices, les créatures sans éducation. Quelle souffrance! Enfin la porte s'ouvre. Il remet son cheval à son groom et je descends alors aussi, mais dans ses bras. Il me l'étend. Je relève mon amazone sur mon bras gauche, je lui donne le bras droit et nous allons. Toujours silencieux. Les 100 pas que nous avons faits ainsi peuvent me compter pour 100 ans de purgatoire. À chaque pas, des milliers de pensées, presque visibles, voltigeantes en langue de feu sous mes yeux, me sautaient à l'âme, ayant chacune un dard, une épingle, un venin différent. Quand le groom et les chevaux furent loin, j'arrête Gaston, je le regarde, et avec un mouvement que tu dois voir, je lui dis, en lui montrant la fatale lettre qu'il tenait toujours dans sa main droite, « Laisse-la-moi lire. » Il me la donne, je la décachète, et lise une lettre par laquelle Nathan, l'auteur dramatique, lui disait que l'une de nos pièces, reçue, apprise et mise en répétition, allait être jouée samedi prochain. La lettre contenait un coupon de loge. Quoique pour moi ce fût aller du martyre au ciel, le démon me criait toujours pour troubler ma joie. Où sont les 30 000 francs? Et la dignité, l'honneur, tout mon ancien moi m'empêchait de faire une question. Je l'avais sur les lèvres. Je savais que si ma pensée devenait une parole, il fallait me jeter dans mon étang. Et je résistais à peine au désir de parler. Ne souffrais-je pas alors au-dessus des forces de la femme? Tu t'ennuies, mon pauvre Gaston, lui dis-je en lui rendant la lettre. Si tu veux, nous reviendrons à Paris. À Paris? Pourquoi? Dit-il. J'ai voulu savoir si j'avais du talent et goûter au punch du succès. Au moment où il travaillera, je pourrais bien faire l'étonné en fouillant dans le tiroir et n'y trouvant pas ces 30 000 francs. Mais n'est-ce pas aller chercher cette réponse? J'ai obligé tel ou tel ami. Qu'un homme d'esprit comme Gaston ne manquerait pas de faire. Ma chère, la morale de ceci est que le beau succès de la pièce à laquelle tout Paris court en ce moment nous est dû, quoique Nathan en ait toute la gloire. Je suis une des 2 étoiles de ce mot. Et M.M. J'ai vu la première représentation, cachée au fond d'une loge d'avant-scène au rez-de-chaussée. 1er juillet. Gaston travaille toujours et va toujours à Paris. Il travaille à de nouvelles pièces pour avoir le prétexte d'aller à Paris et pour se faire de l'argent. Nous avons 3 pièces reçues et 2 de demandées. Oh, ma chère, je suis perdue. Je marche dans les ténèbres. Je brûlerai ma maison pour y voir clair. Que signifie une pareille conduite? A-t-il honte d'avoir reçu de moi la fortune? Il a l'âme trop grande pour se préoccuper d'une pareille niaiserie. D'ailleurs, quand un homme commence à concevoir de ses scrupules, ils lui sont inspirés par un intérêt de cœur. On accepte tout de sa femme, mais l'on ne veut rien avoir de la femme que l'on pense quitter ou qu'on n'aime plus. S'il veut tant d'argent, il a sans doute à le dépenser pour une femme. S'il s'agissait de lui, ne prendrait-il pas dans ma bourse, sans façon? Nous avons 100 000 francs d'économie. Enfin, ma belle biche, j'ai parcouru le monde entier des suppositions. Et, tout bien calculé, je suis certaine d'avoir une rivale. Il me laisse pour qui je veux l'avoir. 10 juillet. J'ai vu Claire, je suis perdue. Oui, René, à 30 ans, dans toute la gloire de la beauté, riche des ressources de mon esprit, parée des séductions de la toilette, toujours fraîche, élégante, je suis trahie. Et pour qui? Pour une Anglaise, qui a de gros pieds, de gros os, une grosse poitrine, quelque vache britannique. Je n'en puis plus douter. Voici ce qui m'est arrivé dans ces derniers jours. Fatigué de douter, pensant que s'il avait secouru l'un de ses amis, Gaston pouvait me le dire. Le voyant accusé par son silence et le trouvant convié par une continuelle soif d'argent au travail, jalouse de son travail, inquiète de ses perpétuelles courses à Paris, j'ai pris mes mesures. et ces mesures m'ont fait descendre alors si bas que je ne puis t'en rien dire. Il y a 3 jours, j'ai su que Gaston se rend, quand il va à Paris, rue de la ville l'évêque, dans une maison où ses amours sont gardées par une discrétion sans exemple à Paris. Le portier, peu causeur, a dit peu de choses, mais assez pour me désespérer. J'ai fait alors le sacrifice de ma vie, et j'ai seulement voulu tout savoir. Je suis allé à Paris, j'ai pris un appartement dans la maison qui se trouve en face de celle où se rend Gaston, et je l'ai pu voir de mes yeux entrant à cheval dans la cour. Oh, j'ai eu trop tôt une horrible et affreuse révélation. Cette Anglaise, qui me paraît avoir 36 ans, se fait appeler Madame Gaston. Cette découverte a été pour moi le coup de la mort. Enfin, je l'ai vue, allant aux Tuileries avec 2 enfants. Oh, ma chère, 2 enfants, qui sont les vivantes miniatures de Gaston. Il est impossible de ne pas être frappé d'une si scandaleuse ressemblance. Et quels jolis enfants! Ils sont habillés fastueusement, comme les Anglaises savent les arranger. Elle lui a donné des enfants. Tout s'explique. Cette Anglaise est une espèce de statue grecque descendue de quelque monument. Elle a la blancheur et la froideur du marbre. Elle marche solennellement en mère heureuse. Elle est belle, il faut en convenir. Mais c'est lourd comme un vaisseau de guerre. Elle n'a rien de fin, ni de distingué. Certes, elle n'est pas lady. C'est la fille de quelque fermier d'un méchant village dans un lointain comté, ou la 11e fille de quelque pauvre ministre. Je suis revenue de Paris, mourante. En route, 1000 pensées m'ont assaillie comme autant de démons. Serait-elle mariée? La connaissait-il avant de m'épouser? A-t-elle été la maîtresse de quelque homme riche qui l'aurait laissée? Et n'est-elle pas soudain retombée à la charge de Gaston? J'ai fait des suppositions à l'infini, comme s'il y avait besoin d'hypothèses en présence des enfants. Le lendemain, je suis retournée à Paris et j'ai donné assez d'argent au portier de la maison pour qu'à cette question « Madame Gaston est-elle mariée légalement ?» il me répondit « Oui, mademoiselle. » 15 juillet. Ma chère, depuis cette matinée, j'ai redoublé d'amour pour Gaston, et je l'ai trouvé plus amoureux que jamais. Il est si jeune. 20 fois à notre lever, je suis près de lui dire « Tu m'aimes donc plus que celle de la rue de la ville l'évêque ?» Mais je n'ose m'expliquer le mystère de mon abnégation. « Tu aimes bien les enfants ?» lui ai-je demandé. « Oh oui, » m'a-t-il répondu, « mais nous en aurons. » Et comment? J'ai consulté les médecins les plus savants, et tous m'ont conseillé de faire un voyage de 2 mois. Gaston, lui ai-je dit, si j'avais pu aimer un absent, je serais restée au couvent pour le reste de mes jours. Il s'est mis à rire. Et moi, ma chère, le mot voyage m'a tué. Oh, certes, j'aime mieux sauter par la fenêtre que de me laisser rouler dans les escaliers en me retenant de marche en marche. Adieu, mon ange, j'ai rendu ma mort douce, élégante, mais infaillible. Mon testament est écrit d'hier. Tu peux maintenant me venir voir, la consigne est levée. Accours recevoir mes adieux. Ma mort sera, comme ma vie, empreinte de distinction et de grâce. Je mourrai tout entière. Adieu, cher esprit de sœur, toi dont l'affection n'a eu ni dégoût, ni haut, ni bas, et qui, semblable à l'égale clarté de la lune, a toujours caressé mon cœur. Nous n'avons point connu les vivacités, mais nous n'avons pas goûté non plus à la vénéneuse amertume de l'amour. Tu as vu sagement la vie. Adieu.
Chapitre 55. De la comtesse de l'Estorade à Madame Gaston. « 16 juillet. Ma chère Louise, je t'envoie cette lettre par un express, avant de courir au chalet moi-même. Calme-toi. Ton dernier mot m'a paru si insensé que j'ai cru pouvoir, en de pareilles circonstances, tout confier à Louis. Il s'agissait de te sauver de toi-même. Si, comme toi, nous avons employé d'horribles moyens, le résultat est si heureux que je suis certaine de ton approbation. Je suis descendue jusqu'à faire marcher la police, mais c'est un secret entre le préfet, nous et toi. Gaston est un ange. Voilà les faits. Son frère Louis Gaston est mort à Calcutta au service d'une compagnie marchande au moment où il allait revenir en France, riche, heureux et marié. La veuve d'un négociant anglais lui avait donné la plus brillante fortune. Après 10 ans de travaux entrepris pour envoyer de quoi vivre à son frère qu'il adorait et à qui jamais il ne parlait de ses mécomptes dans ses lettres pour ne pas l'affliger, il a été surpris par la faillite du fameux Almer. La veuve a été ruinée. Le coup fut si violent que Louis Gaston en a eu la tête perdue. Le moral, en faiblissant, a laissé la maladie maîtresse du corps, et il a succombé dans le Bengale, où il était allé réaliser les restes de la fortune de sa pauvre femme. Ce cher capitaine avait remis chez un banquier une première somme de 300 000 francs pour l'envoyer à son frère. Mais ce banquier, entraîné par la maison Almer, leur a enlevé cette dernière ressource. La veuve de Louis Gaston, cette belle femme que tu prends pour ta rivale, est arrivée à Paris avec 2 enfants qui sont tes neveux et sans un sou. Les bijoux de la mère ont à peine suffi à payer le passage de sa famille. Les renseignements que Louis Gaston avait donnés au banquier pour envoyer l'argent à Madame Gaston ont servi à la veuve pour trouver l'ancien domicile de ton mari. Comme ton Gaston a disparu sans dire où il allait, on a envoyé Madame Louis Gaston chez d'Arthez, la seule personne qui put donner des renseignements sur Marie Gaston. D'Arthez a d'autant plus généreusement pourvu aux premiers besoins de cette jeune femme que Louis Gaston s'était, il y a 4 ans, au moment de son mariage, enquis de son frère auprès de notre célèbre écrivain, en le sachant l'ami de Marie. Le capitaine avait demandé à D'Arthez le moyen de faire parvenir sûrement cette somme à Marie Gaston. D'Arthez avait répondu que Marie Gaston était devenue riche par son mariage avec la baronne de Macumer. La beauté, ce magnifique présent de leur mère, avait sauvé dans les Indes comme à Paris les 2 frères de tout malheur. N'est-ce pas une touchante histoire? D'Arthez a naturellement fini par écrire à ton mari l'état où se trouvaient sa belle-sœur et ses neveux, en l'instruisant des généreuses intentions que le hasard avait fait avorter, mais que le Gaston des Indes avait eues pour le Gaston de Paris. Ton cher Gaston, comme tu dois l'imaginer, est accouru précipitamment à Paris. Voilà l'histoire de sa première course. Depuis 5 ans, il a mis de côté 50 000 francs sur le revenu que tu l'as forcé de prendre, et il les a employés à 2 inscriptions de chacune 1 200 francs de rente au nom de ses neveux. Puis, il a fait meubler cet appartement où demeure ta belle-sœur en lui promettant 3 000 francs tous les 3 mois. Voilà l'histoire de ses travaux au théâtre et du plaisir que lui a causé le succès de sa première pièce. Ainsi, Madame Gaston n'est point ta rivale et porte ton nom très légitimement. Un homme noble et délicat comme Gaston a dû te cacher cette aventure en redoutant ta générosité. Ton mari ne regarde point comme à lui ce que tu lui as donné. D'Arthez m'a lu la lettre qu'il lui a écrite pour le prier d'être un des témoins de votre mariage. Marie Gaston y dit que son bonheur serait entier s'il n'avait pas eu de dette à te laisser payer et s'il eût été riche. Une âme vierge n'est pas maîtresse de ne pas avoir de tels sentiments. Ils sont ou ne sont pas. Et quand ils sont, leur délicatesse, leur exigence se conçoivent. Il est tout simple que Gaston ait voulu lui-même, en secret, donner une existence convenable à la veuve de son frère, quand cette femme lui envoyait 5 000 écus de sa propre fortune. Elle est belle, elle a du cœur, des manières distinguées, mais pas d'esprit. Cette femme est mère. N'est-ce pas dire que je m'y suis attachée aussitôt que je l'ai vue? en la trouvant, un enfant au bras et l'autre habillé comme le baby d'un lord. Tout pour les enfants est écrit chez elle dans les moindres choses. Ainsi, loin d'en vouloir à ton adoré Gaston, tu n'as que de nouvelles raisons de l'aimer. Je l'ai entrevu. Il est le plus charmant jeune homme de Paris. Oh oui, cher enfant, j'ai bien compris en l'apercevant qu'une femme pouvait en être folle. Il a la physionomie de son âme. À ta place, je prendrai au chalet la veuve et les deux enfants en leur faisant construire quelques délicieux cottages et j'en ferai mes enfants. Calme-toi donc et prépare à ton tour cette surprise à Gaston.
Lettre 56 de Madame Gaston à la Comtesse de l'Estorade. Ah, ma bien-aimée, entends le terrible, le fatal, l'insolent mot de l'imbécile. Lafayette à son maître, à son roi. Il est trop tard. Oh, ma vie, ma belle vie, quel médecin me la rendra? Je me suis frappée à mort, hélas. N'étais-je pas un feu follet de femme, destiné à s'éteindre après avoir brillé? Mes yeux sont deux torrents de larmes, et je ne peux pleurer que loin de lui. Je le fuis, et il me cherche. Mon désespoir est tout intérieur. Dante a oublié mon supplice dans son enfer. Viens me voir mourir.
Chapitre 57 De la comtesse de l'Estorade au comte de l'Estorade. Au chalet, 7 août. Mon ami, emmène les enfants et fais le voyage de Provence sans moi. Je reste auprès de Louise, qui n'a plus que quelques jours à vivre. Je me dois à elle et à son mari qui deviendra fou, je crois. Depuis le petit mot que tu connais et qui m'a fait voler accompagné du médecin à Ville d'Avray, je n'ai pas quitté cette charmante femme et n'ai pu t'écrire, car voici la 15e nuit que je passe. En arrivant, je l'ai trouvée avec Gaston, belle et parée, le visage riant, heureuse. Quel sublime mensonge! Ces deux enfants s'étaient expliqués. Pendant un moment, j'ai, comme Gaston, été la dupe de cette audace. Mais Louise m'a serré la main et m'a dit à l'oreille
« Il faut le tromper, je suis mourante. »
Un froid glacial m'a enveloppée en lui trouvant la main brûlante et du rouge aux joues. Je me suis applaudie de ma prudence. J'avais eu l'idée de n'effrayer personne, de dire au médecin de se promener dans le bois en attendant que je les fisse demander.
« Laisse-nous, »
dit-elle à Gaston.
« Deux femmes qui se revoient après 5 ans de séparation ont bien des secrets à se confier, et René a sans doute quelques confidences à me faire. »
Une fois seule, elle s'est jetée dans mes bras, sans pouvoir contenir ses larmes. « Qu'y a-t-il donc ?» lui ai-je dit. « Je t'amène en tout cas le premier chirurgien et le premier médecin de l'Hôtel-Dieu, avec Bianchon. Enfin, ils sont 4. »
Oh, s'ils peuvent me sauver, s'il est temps qu'ils viennent,
s'est-elle écriée.
Le même sentiment qui me portait à mourir me porte à vivre.
Mais qu'as-tu fait?
Je me suis rendue poitrinaire au plus haut degré en quelques jours.
Et comment?
Je me mettais en sueur la nuit et courais me placer au bord de l'étang dans la rosée. Gaston me croit enrhumé et je meurs.
Envoie-le donc à Paris. Je vais chercher moi-même les médecins, ai-je dit en courant comme une insensée à l'endroit où je les avais laissés. Hélas, mon ami, la consultation faite, aucun de ces savants ne m'a donné le moindre espoir. Ils pensent tous qu'à la chute des feuilles, Louise mourra. La constitution de cette chère créature a singulièrement servi son dessein. Elle avait des dispositions à la maladie qu'elle a développée. Elle aurait pu vivre longtemps, mais en quelques jours elle a rendu tout irréparable. Je ne te dirai pas mes impressions en entendant cet arrêt parfaitement motivé. Tu sais que j'ai tout autant vécu par Louise que par moi. Je suis restée anéantie et n'ai point reconduit ces cruels docteurs. Le visage baigné de larmes, j'ai passé je ne sais combien de temps dans une douloureuse méditation. Une céleste voix m'a tiré de mon engourdissement par ces mots.
« Eh bien, je suis condamnée !»
que Louise m'a dit en posant sa main sur mon épaule. Elle m'a fait lever et m'a demandé dans son petit salon.
« Ne me quitte plus. Je ne veux pas voir le désespoir autour de moi. Je veux surtout le tromper. J'en aurai la force. Je suis pleine d'énergie, de jeunesse, et je saurai mourir debout. Quant à moi, je ne me plains pas. Je meurs comme je l'ai souhaité souvent. À 30 ans, jeune, belle, tout entière. Quant à lui, je l'aurais rendu malheureux, je le vois. Je me suis prise dans les lacs de mes amours comme une biche qui s'étrangle en s'impatientant d'être prise. De nous deux, je suis la biche, et bien sauvage. Le jour où mes soupçons auraient rencontré l'indifférence, le loyer qui attend la jalousie, eh bien, je serais morte. J'ai mon compte de la vie. Il y a des êtres qui ont 60 ans de service sur les contrôles du monde et qui, en effet, n'ont pas vécu 2 ans. Au rebours, je parais n'avoir que 30 ans, mais, en réalité, j'ai eu 60 années d'amour. Ainsi, pour moi, pour lui, ce dénouement est heureux. Quant à nous deux, c'est autre chose. Tu perds une sœur qui t'aime, et cette perte est irréparable. Toi seule, ici, tu dois pleurer ma mort. Ma mort ?
Reprit-elle après une longue pause, pendant laquelle je ne l'ai vue qu'à travers le voile de mes larmes.
Porte avec elle un cruel enseignement. Mon cher docteur encorsé a raison. Le mariage ne saurait avoir pour base la passion, ni même l'amour. Ta vie est une belle et noble vie. Tu as marché dans ta voie, aimant toujours de plus en plus ton Louis. Tandis qu'en commençant la vie conjugale par une ardeur extrême, elle ne peut que décroître. J'ai eu 2 fois tort, et 2 fois la mort sera venue souffleter mon bonheur de sa main décharnée. Elle m'a enlevé le plus noble et le plus dévoué des hommes. Aujourd'hui, la Camarde m'enlève au plus beau, au plus charmant, au plus poétique époux du monde. Mais j'aurais tour à tour connu le beau idéal de l'âme et celui de la forme. Chez Philippe, l'âme domptait le corps et le transformait. Chez Gaston, le cœur, l'esprit et la beauté rivalisent. Je meurs adoré. Que puis-je vouloir de plus ? Me réconcilier avec Dieu que j'ai négligé peut-être et vers qui je m'élancerai, pleine d'amour, en lui demandant de me rendre un jour ses 2 anges dans le ciel. Sans eux, le paradis serait désert pour moi. Mon exemple serait fatal. Je suis une exception. Et comme il est impossible de rencontrer des Felipe ou des Gaston, la loi sociale est en ceci d'accord avec la loi naturelle. Oui, la femme est un être faible qui doit, en se mariant, faire un entier sacrifice de sa volonté à l'homme, qui lui doit en retour le sacrifice de son égoïsme. Les révoltes et les pleurs que notre sexe a élevés et jetés dans ces derniers temps avec tant d'éclat sont des niaiseries qui nous méritent le nom d'enfants que tant de philosophes nous ont donné.
Elle a continué de parler ainsi de sa voix douce que tu connais, en disant les choses les plus sensées de la manière la plus élégante, jusqu'à ce que Gaston entrât, amenant de Paris sa belle-sœur, les deux enfants et la bonne anglaise que Louise l'avait priée d'aller chercher.
« Voilà mes jolis bourreaux »
a-t-elle dit en voyant ses deux neveux.
« Ne pouvais-je pas m'y tromper, comme ils ressemblent à leur oncle ?»
Elle a été charmante pour Madame Gaston l'aînée, qu'elle a prié de se regarder au chalet comme chez elle, et elle lui a fait les honneurs avec ses façons à la Chaulieu qu'elle possède au plus haut degré. J'ai sur le champ écrit à la duchesse et au duc de Chaulieu, au duc de Rhétoré et au duc de Lenoncourt Chaulieu, ainsi qu'à Madeleine. J'ai bien fait. Le lendemain, fatiguée de tant d'efforts, Louise n'a pu se promener. Elle ne s'est même levée que pour assister au dîner. Madeleine de Lenoncourt, ses deux frères et sa mère sont venus dans la soirée. Le froid que le mariage de Louise avait mis entre elle et sa famille s'est dissipé. Depuis cette soirée, les deux frères et le père de Louise sont venus à cheval tous les matins, et les deux duchesses passent au chalet toute leur soirée. La mort rapproche autant qu'elle sépare. Elle fait taire les passions mesquines. Louise est sublime de grâce, de raison, de charme, d'esprit et de sensibilité. Jusqu'au dernier moment, elle montre ce goût qui l'a rendue si célèbre et nous dispense les trésors de cet esprit qui faisait d'elle une des reines de Paris.
« Je veux être jolie, jusque dans mon cercueil !»
m'a-t-elle dit avec ce sourire qui n'est qu'à elle, en se mettant au lit pour y languir ces 15 jours-ci. Dans sa chambre, il n'y a pas trace de maladie. Les boissons, les gommes, tout l'appareil médical est caché.
« N'est-ce pas que je vais une belle mort ?»
disait-elle hier au curé de Sèvres, à qui elle a donné sa confiance. Nous jouissons tous d'elle en Navarre. Gaston, que tant d'inquiétudes, tant de clartés affreuses ont préparé, ne manque pas de courage. Mais il est atteint. Je ne m'étonnerai pas de le voir suivre naturellement sa femme. Hier, il m'a dit en tournant autour de la pièce d'eau, « Je dois être le père de ses deux enfants. » Et il me montrait sa belle-sœur qui promenait ses neveux. Mais quoique je ne veuille rien faire pour m'en aller de ce monde, promettez-moi d'être une seconde mère pour eux et de laisser votre mari accepter la tutelle officielle que je lui confierai conjointement avec ma belle-sœur. » Il a dit cela sans la moindre emphase et comme un homme qui se sent perdu. Sa figure répond par des sourires au sourire de Louise, et il n'y a que moi qui ne m'y trompe pas. Il déploie un courage égal au sien. Louise a désiré voir son filleul, mais je ne suis pas fâchée qu'il soit en Provence. Elle aurait pu lui faire quelque libéralité qui m'aurait fort embarrassée. Adieu, mon ami. août, le jour de sa fête. Hier au soir, Louise a eu pendant quelques moments le délire. Mais ce fut un délire vraiment élégant, qui prouve que les gens d'esprit ne deviennent pas fous comme les bourgeois ou comme les sots. Elle a chanté d'une voix éteinte quelques airs italiens des Puritani, de la Somnambula et de Mosè. Nous étions tous silencieux autour du lit, et nous avons tous eu, même le frère Rhétoré, des larmes dans les yeux, tant il était clair que son âme s'échappait ainsi. Elle ne nous voyait plus. Il y avait encore toute sa grâce dans les agréments de ce chant faible et d'une douceur divine. L'agonie a commencé dans la nuit. Je viens, à 7 heures du matin de la lever moi-même. Elle a retrouvé quelque force et a voulu s'asseoir à sa croisée. Elle a demandé la main de Gaston. Puis, mon ami, l'ange le plus charmant que nous pourrons jamais voir sur cette terre ne nous a plus laissé que sa dépouille. Administrée la veille à l'insu de Gaston, qui pendant la terrible cérémonie a pris un peu de sommeil, elle avait exigé de moi que je lui lusse en français le De Profundis. Pendant qu'elle serait ainsi, face à face avec la belle nature qu'elle s'était créée, elle répétait mentalement les paroles et serrait les mains de son mari, agenouillé de l'autre côté de la bergère. août. J'ai le cœur brisé. Je viens d'aller la voir dans son linceul. Elle y est devenue pâle, avec des teintes violettes. Oh, je veux voir mes enfants, mes enfants! Amène mes enfants au-devant de moi. Paris, 1841.